Le journal Loïc Barrière. Le chef du groupe État islamique tué lors d'une opération militaire des États-Unis en Syrie. Selon la Maison-Blanche, l'explosion d'une bombe provoquée par Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi a tué plusieurs membres de sa famille. La Tunisie a besoin d'un New Deal économique et social, affirme Slim Meherzi, vice-président d'Afek Tounes. Il était l'invité de Radio Orient ce jeudi. Ghaleb Bencher, président de la Fondation de l'Islam de France, condamne les menaces de mort qui visent une journaliste de M6 et un journaliste de Roubaix suite à un reportage sur l'islamisme dans cette ville. Nous l'écouterons. Enfin, l'Association des élus de France s'inquiète de la banalisation du racisme dans les débats télévisés à l'occasion de l'élection présidentielle. Entretien avec Naïma Sifer, secrétaire générale adjointe de l'association. La mort en Syrie du chef de Daesh, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi, c'est le président Joe Biden qui l'a annoncé, affirmant qu'il a été éliminé du champ de bataille. Selon la Maison-Blanche, le dirigeant djihadiste a été tué dans une explosion qu'il a lui-même causée dès le début du raid des forces spéciales américaines contre sa maison dans la région d'Idleb. La Maison-Blanche précise que la bombe qu'il a actionnée a tué également des membres de sa propre famille, dont des femmes et des enfants. Tous les soldats américains sont sains et saufs, a précisé le président Biden. C'est dans la nuit que les forces spéciales américaines sont intervenues. Les soldats sont arrivés à bord d'hélicoptères dans la ville d'Atmé. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 13 personnes sont mortes dans cette opération, dont 4 femmes et 3 enfants. La situation en Tunisie, l'invité de rencontre ce jeudi après-midi sur Radio Orient était Slim Meherzi, vice-président du parti Afek Tounes, ancien maire de la Marsa, venu rencontrer les Tunisiens de France. Il plaide pour un New Deal en Tunisie et il rend hommage à l'aide apportée par les Tunisiens de France.
La réponse va être en premier par rapport aux Tunisiens à l'étranger. Je crois que la solidarité qui s'est faite au moment du Covid par les Tunisiens à l'étranger, quelque chose d'extraordinaire. Et j'insiste ici, puisque je suis en France, pour leur rendre hommage, même si eux n'ont rien vu venir. Mais cette solidarité qui s'est faite au niveau des associations, au niveau des personnes elles-mêmes, comment elles ont aidé leur pays, était une véritable fierté, et fait qu'ils sont véritablement dignes d'être l'essence de ce qu'on peut faire de mieux en Tunisie. Donc ça, vraiment, et c'est pas par pure démagogie, c'est ce que je pense foncièrement. Ça, c'est un point. On a vécu une crise sanitaire incontestable. Mais, incontestablement aussi, on est en train de vivre une crise sociale et économique qui risque d'être dévastatrice pour notre pays. La Tunisie est pour moi et pour nous le centre de gravité de la Méditerranée. On est 10 millions, vous savez, on est l'île de France, tout simplement. Voilà. On est l'île de France et aujourd'hui, il y a une trop grande injustice sociale, une trop grande inégalité. Je vous rappelle que cette révolution, parce que nous, en tant que FRTONS, on croit en la révolution tunisienne, elle a été faite pour la liberté. On a la liberté, la preuve, c'est que je peux discuter avec vous et rentrer après chez moi en Tunisie. On a la dignité puisqu'on se sent tunisien, mais en matière de politique de l'emploi, en matière de justice sociale, en matière de justice entre régions, rien n'a été fait et il est urgent aujourd'hui de prendre ses responsabilités, qu'on soit dans sa partie politique ou pas dans sa partie politique. C'est pour ça que la FRTONUS aujourd'hui travaille sur un véritable New Deal, au sens, New Deal à la Roosevelt, quoi. Un véritable New Deal économique et social qui peut faire que ça aille mieux. Et pour ça, il faut de la solidarité, de la justice sociale et une réelle politique de l'emploi. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Ce n'est pas le cas aujourd'hui. On ne pourra jamais avoir de paix sociale sans que ces trois axes ne soient véritablement le sujet essentiel des mois à venir, pour ne pas dire des années à venir, parce que je pense que il nous reste encore un an, puisqu'il y a des élections, et après ça risque d'être véritablement compliqué pour notre pays.
Le FMI souhaite que la Tunisie lance des réformes structurelles importantes. De quelles réformes parle-t-on? Est-ce que ce sera douloureux pour les Tunisiens? Est-ce que ce sont des réformes nécessaires?
Je pense pas que le FMI soit là pour appauvrir le peuple tunisien. Je pense que le FMI à nous de prendre nos responsabilités. Je considère que le président de la République et son gouvernement aujourd'hui pouvaient faire appel à tout le monde. Je parle des partenaires sociaux, des organisations nationales, de certains partis politiques qui croient dans le 25 juillet, et dire, voilà, il y a un sujet, on doit avoir de l'argent du FMI pour payer en fait nos dettes. C'est ça ce qui est dramatique. Si on demandait de l'argent au FMI pour des investissements, ça serait quelque chose d'extraordinaire, mais là, on est en train de demander de l'argent pour payer nos dettes. C'est-à-dire, on demande de l'argent à des personnes qu'on doit par la suite payer. C'est un paradoxe extraordinaire et c'est véritablement injuste. Donc aujourd'hui, je crois que on ne peut être véritablement d'avoir un véritable dialogue sincère entre nous et le FMI si, entre nous, nous-mêmes, on n'arrive pas à nous entendre pour montrer que par rapport à ces sujets, au-delà de la politique, au-delà de toute considération, on est un seul et unique peuple représenté par un président, un gouvernement, des partis politiques, des organisations nationales et des partenaires sociaux. Voilà. Je crois que c'est ça l'essentiel. Et si on risque de nous faire de souffrir, puisque notre ministre de la Défense a déclaré que si on n'avait pas si les négociations d'ici mars, donc d'ici deux mois, n'aboutissaient pas avec le FMI, notre peuple risquait de souffrir encore plus. Je pense que là, vraiment, on est à la limite de la souffrance. Je suis pas en train de commander quoi que ce soit, mais c'est une réalité. Le but essentiel, on ne peut pas rester en démocratie si on voit qu'il y a autant on a une population qui souffre. Celle qui souffrait énormément, ben, souffre encore plus. Et le problème essentiel aujourd'hui, c'est que le Tunisien moyen, la population moyenne qui était l'essence de ce pays, est en train de s'appauvrir énormément. Donc on demande au FMI, quelles que soient nos considérations politiques, de prendre en compte tout ça. Nous sommes 10 millions d'habitants, nous croyons en la démocratie, je crois que c'est être au-delà des considérations politiques.
Slim Meherzi, vice-président d'AFEC Tounes, ancien maire de la Marsaille, il était l'invité de rencontre sur Radio Orient, émission rediffusée ce dimanche à 11h. Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, à Bahreïn, à cette occasion, il a appelé au renforcement de la coopération régionale pour faire face aux menaces terrestres et aériennes, une allusion notamment à l'Iran. C'est la première visite d'un ministre de la Défense israélien à Bahreïn depuis la normalisation des relations entre les deux pays. C'était en septembre 2020. La Fondation de l'Islam de France condamne fermement les menaces contre la journaliste de M6, Ophélie Meunier, et un témoin de l'émission Zone Interdite. Ils ont été placés sous protection policière après avoir reçu des menaces de mort à la suite d'un reportage sur l'islamisme tourné à Roubaix. Pour Raleigh Bencher, président de la Fondation, de telles menaces sont inacceptables.
D'abord, c'est un message d'indignation. On ne peut pas et on ne doit pas accepter qu'il y ait la moindre menace, a fortiori touchant l'intégrité physique et morale de quelque citoyen que ce soit et pour quelque fait que ce soit. Nous sommes dans un État démocratique, un État de droit et nous appartenons à une civilisation qui respecte les avis, quels qu'ils soient, et nous sommes pas contents, nous devons aller voir les tribunaux pour cela, d'une part. D'autre part, le soutien est total, bien entendu, à quiconque exerce son métier, et ce ne sont pas les menaces qui doivent être la réponse pour telle ou telle désapprobation si on pense qu'on a été diffamé ou qu'on a manipulé tel ou tel aspect de l'interview. Et troisièmement, cela correspond à l'idée qu'on voulait pourfendre, qui est que l'islamisme ou l'extrémisme réagit toujours par la violence, et ça c'est une manière de le corroborer. Donc ceux qui agissent ainsi n'ont encore rien compris, au contraire, ils témoignent par cet acte inacceptable de menace en corroborant ce contre quoi ils s'insurgent. Donc la Fondation de l'Islam de France condamne fermement ces menaces et appelle à régler cette question de l'information sur le fait islamique d'une manière sereine, apaisée, objective et sérieuse. Et ce n'est surtout pas ainsi. Et nous nous insurgeons contre ces menaces qui sont inacceptables.
Ghaleb Benchaire, président de la Fondation de l'Islam de France, au micro de François-Xavier de Calonne. À noter que le Figaro publie l'appel de 160 personnalités qui regrettent le manque de réaction face à ces menaces de mort. Face à la montée des discours xénophobes sur les plateaux de télévision, les élus locaux appellent à un sursaut des intellectuels, des artistes et des journalistes. Une tribune et un clip ont été réalisés par l'Association des élus de France. Entretien avec Naïma Sifer, secrétaire générale adjointe de l'AEF, adjointe au maire d'Angerville.
Déjà, nous, c'est un cri du cœur, cette tribune, c'est un cri du cœur, faut le savoir, de ces 180 élus. Nous, les élus du terrain, on est au plus près des citoyens, nous sommes ancrés au plus près des citoyens. Aujourd'hui, on rencontre des fractures sociales, sanitaires, économiques, écologiques. Eh bien, nous, élus locaux, sommes premiers de trancher. Et nous sommes profondément attachés à ces valeurs républicaines. C'était la première chose que je voulais vous dire. Nous avons, pour la plupart des élus, rencontrons des administrés qui aujourd'hui sont inquiets des débats qui se passent sur les débats télévisés et ils ont peur. Voilà, on vit une période de trouble. C'est des débats anxiogènes et nos administrés nous le disent sur le terrain tous les jours. Voilà. Donc nous appelons effectivement à un sursaut républicain, à ces forces vives, donc les artistes, les intellectuels, les journalistes, car nous devons d'être responsables sur la prise de parole.
Vous trouvez que l'on parle trop de sujets qui divisent la société et que l'on devrait plutôt aborder des questions comme le logement? On a vu la Fondation Abbé Pierre qui a lancé un cri d'alerte sur le manque de logement en France.
Exactement, exactement. Et c'est pour ça que l'Association des élus de France, au-delà des étiquettes politiques, parce qu'il y a de toute étiquette politique et même des sans étiquettes, dont je fais partie, on fausse ce débat, en fait, tout simplement. Il y a des choses beaucoup plus importantes que ça, et il faut vraiment prendre ces sujets-là à bras le corps. Voilà. Voilà, le logement, comme vous avez dit, c'est un sujet central, hein. Il n'y a pas que ça, il y a l'emploi, il y a énormément de choses à discuter. Donc tous ces débats qui se passent sur les plateaux télévisés, ce sont pour moi des faux débats. Et c'est pour ça que cette association-là regroupe, et on rentre tous les jours des élus autour de cette réconciliation nationale, parce que c'est vraiment le maître mot de cette association.
Et donc aujourd'hui, vous en appelez aux artistes, aux journalistes notamment, qui organisent ces débats. Vous estimez qu'il y a trop de place qui est donnée à des sujets comme l'immigration, l'insécurité?
Je ne dis pas que c'est pas important. Ce sont des sujets bien sûr qui sont importants, mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, on n'entend que ça. Voilà, c'est ce que je veux dire. Aujourd'hui, il n'y a que ça. Nous devons d'être responsables de ces prises de parole, vraiment. On a un devoir envers nos citoyens.
Comment s'est ressenti ces débats clivants sur le terrain par les habitants?
Les habitants nous font part justement de ce climat anxiogène, cette période troublée que l'on vit aujourd'hui, et ils sont inquiets. S'il y a autant d'abstention, c'est pas anodin non plus. Faut dire si aujourd'hui les quartiers populaires, c'est pas un bon électorat, on va dire. S'ils s'intéresseraient un peu plus à ce sujet-là, beaucoup de personnes issues de ces quartiers iraient voter et auraient confiance justement à ces politiques. En dehors du logement, il y a l'emploi, il y a énormément de sujets aujourd'hui, les fractures sociales, il y a la crise sanitaire, économique. Aujourd'hui, on vit une crise économique aussi. Le pouvoir d'achat est bas. Donc tout l'écologie, il y a énormément de choses. Enfin voilà. Et ces sujets-là, on n'en parle pas assez, tout simplement. Bien sûr, tous ces sujets importants, l'école, c'est tout un. Voilà, on va pas débattre aujourd'hui sur ce sujet-là, mais l'éducation, bien sûr, c'est important. Avec toutes les réformes qu'il y a eu, etc. Le décrochage scolaire, je peux en parler. Je suis présidente aussi de fédération de parents d'élèves depuis plus de 10 ans. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Pourquoi on n'en parle pas? Tous ces sujets sont autant importants et on n'en parle pas assez sur nos plateaux télévisés, malheureusement.
Naïma Sifer, secrétaire générale adjointe de l'Association des élus de France, adjointe au maire d'Angerville. 16 migrants sont morts de froid en Turquie, près de la frontière grecque. Leurs corps ont été découverts mercredi et jeudi. Le ministre turc de l'Intérieur affirme que ces migrants avaient été repoussés par les douaniers grecs, dépouillés de leurs vêtements et de leurs chaussures. La Grèce dément ces accusations. La commissaire européenne aux affaires intérieures a appelé à une enquête sur ce drame. Emmanuel Macron propose que l'Union européenne crée le mois prochain un conseil de pilotage de l'espace Schengen, un conseil qui serait doté d'un mécanisme d'intervention rapide en cas de crise aux frontières extérieures de l'Union. Le président français souhaite que les Européens se dotent d'une politique commune d'asile et d'immigration. Pour le pass vaccinal, la troisième dose n'est plus obligatoire après une infection au Covid. C'est ce qu'a annoncé le ministre français de la Santé. Selon Olivier Véran, au moins un Français sur deux a eu le Covid depuis le début de l'épidémie. Il assure aujourd'hui que le pire est derrière nous. Selon le ministre, il est probable qu'on verra la fin du pass vaccinal avant le mois de juillet. Et puis la CFDT a organisé un rassemblement ce jeudi pour soutenir ceux qu'on a appelés les travailleurs essentiels de la crise sanitaire, parmi eux les caissiers. Ils affirment que leurs conditions de travail et leurs salaires ne se sont pas améliorés. Qui rejoindra le Sénégal en finale de la CAN? Réponse ce soir avec le match Cameroun-Égypte, une rencontre qui commence à 20h à Yaoundé. Et si on en parlait à 19h et 23h sur Radio Orient, le thème de l'émission cette semaine, quelle place pour le logement dans la campagne présidentielle? Alexis Bachelet reçoit Razi Hamadi, directeur de News Tank City, directeur du MBA Transition Urbaine à l'université Léonard de Vinci, et Daniel Goldberg, porte-parole de Christiane Taubira. Cette édition est terminée, merci d'être fidèle à Radio Orient.